Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver à notre micro. La semaine dernière, nous avons évoqué la guerre de sécession américaine, débutée en 1861, qui s'est terminée en 1865. Une guerre ô combien importante dans l'histoire des États-Unis, puisqu'elle a contribué à façonner la version moderne des États-Unis et a vu vaciller une partie de son union. Nous allons poursuivre cette conversation autour de la guerre de sécession avec mon invité Vincent Bernard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes historien militaire, vous êtes membre de la rédaction de la revue Guerre et Histoire et vous venez de publier aux éditions Passé Composé une histoire de la guerre de sécession, la guerre de sécession, la grande guerre américaine. Vous avez consacré d'autres ouvrages à cette guerre, notamment Le Sud pouvait-il gagner la guerre de sécession ? Alors, la semaine dernière, nous avions vu la guerre en résumé avec ses principales batailles, ses principaux faits d'armes. Voyons peut-être dans cette émission davantage les aspects culturels et politiques de cette guerre. Et première question, alors très basique, mais qui permettra de soulever peut-être quelques questionnements, quelques doutes. D'où vient le choix des couleurs pour les uniformes? On a les bleus contre les gris. Alors, peut-être que beaucoup de nos auditeurs ont lu les tuniques bleues. Donc, ça a contribué à développer l'imaginaire autour de cette BD. Mais pourquoi est-ce qu'on a justement les bleus et les gris face à face? Comment s'est fait ce choix?
Alors les bleus et les gris, il faut d'abord voir que c'est une simplification assez large puisque les uniformes confédérés vont être assez disparates. On trouve beaucoup de uniformes marron, de butternut. Les uniformes confédérés seront souvent ceux que les circonstances permettent. Et de plus, au début de la guerre, les deux camps arborent vraiment un patchwork d'uniformes assez incroyable. Il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et il y a une mode assez française d'ailleurs. Il y a beaucoup de régiments de zouaves qui s'habillent comme dans l'armée française. Donc voilà, on a ce patchwork-là. Il ne faut pas simplement avoir l'idée, justement, la BD des tuniques bleues avec ces uniformes qui sont très très réguliers, bleu et gris. Alors sinon, pour l'uniforme réglementaire, disons, l'uniforme bleu, c'est simplement l'uniforme d'armée américaine de cette époque. Bleu foncé, la veste bleu foncé, le pantalon bleu clair, qui est adopté dans les années 1850, qui est issu d'une certaine tradition, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a adopté d'abord le pantalon à la française, à l'anglaise, bon, il y a différents choix, et donc on a cet uniforme bleu de l'armée régulière au nord, et l'uniforme gris sudiste renvoie plutôt à celui des écoles militaires, en particulier de West Point. Voilà, donc pour se distinguer évidemment de leurs adversaires, parce que cette question d'uniforme n'est pas tout à fait anodine dans le sens où elle va provoquer un certain nombre de confusions dans certaines batailles, enfin les premières batailles de la guerre, où certains régiments seront incapables de se reconnaître l'un l'autre comme adversaire ou au contraire comme ami, et il y aura des tirs fratricides ou au contraire des unités ennemies qui pourront passer inaperçues parce qu'on pense que c'est des renforts qui arrivent, en fait c'est l'adversaire qui vous passe sous le nez. Donc c'est pour ça que ça va amener aussi à une certaine standardisation après 1861 des uniformes.
Alors il y a aussi des grands généraux qu'on a cités la semaine dernière, notamment le général Lee pour les sudistes et puis le général Grant au nord. Intéressons-nous à ces deux personnalités qui sont importantes. Si on va commencer par Lee, d'où vient-il, comment a-t-il été formé? Est-ce que c'est un militaire de carrière?
Alors oui, les deux d'ailleurs. Moi j'ai consacré une biographie à Lee et une biographie à Grant, justement, parce que ce sont les deux grandes figures militaires comparées pour ce conflit, alors qu'en réalité, leur affrontement ne dure finalement qu'un an, entre le printemps 64 et le printemps 1865. Ce sont deux West Pointers, qui ne sont pas de la même génération, puisque Lee est plus âgé, mais qui sont issus tous les deux, effectivement, du sérail de l'école militaire de West Point, donc ils forment la crème des officiers de l'armée régulière. Et le général Lee est un officier, considéré comme un officier exemplaire, c'est-à-dire qu'il a fini deuxième du classement, il est une des figures tutélaires de l'école. Grant a une scolarité un petit peu j'allais dire un peu plus médiocre, mais enfin ça reste, il est plutôt dans les milieux de classement. Et c'est un excellent cavalier, mais que son classement moyen ne permettra que de rentrer dans l'infanterie d'ailleurs quand il sort de l'école.
Alors, vous avez dit effectivement qu'ils ne sont pas de la même génération. Robert Lee est né en 1807, il décède en 1870, donc 5 ans après le conflit, alors que Grant est de la génération d'après, il est plus jeune,
Ouais.
puisqu'il est né en 1822, il décède en 1885. Donc il y a effectivement une petite vingtaine d'années ou 15 ans d'écart entre les deux. Donc deux militaires de carrière. Lee est un sudiste, enfin il vient de Virginie.
C'est un Virginien, oui.
Est-ce que ça allait de soi qu'ils rejoignent l'armée sudiste?
Alors, c'est ce qu'ont voulu dire ces défenseurs, c'est un peu simple, puisque certains Virginiens ne vont pas rejoindre l'armée sudiste, mais rester fidèles au drapeau national. Par exemple, le général Thomas, qui est l'un des plus connus, qui sera général d'armée, et le général en chef de l'armée des États-Unis en 1861, qui est le général Scott, qui est aussi un Virginien. Donc, c'était pas un choix absolument évident. Il n'empêche que, à l'inverse de ce qu'on entend parfois aujourd'hui, qu'il avait le choix, au sens, il aurait dû rester fidèle au drapeau national. C'est le choix de rejoindre le Sud est quand même très majoritaire parmi les officiers originaires de ces États-là. Si on lit le contexte dans lequel Lee rejoint la Virginie, finalement décide de rejoindre la Virginie, sa fille écrit qu'il le fait après avoir versé des larmes de sang, en hésitant entre sa fidélité au drapeau national et sa fidélité à ce qu'il appelle sa famille, ses amis sa région d'origine, finalement son état d'origine. Et donc il fait finalement ce choix de la Virginie. Encore une fois, c'est pas un choix que tous les Virginiens feront ou que tous les sudistes feront, mais c'est quand même le choix majoritaire. Le général Thomas, dont je parlais à l'instant, qui lui reste fidèle au drapeau national, lui va rompre avec toute sa famille, au contraire.
Est-ce qu'il a une stratégie particulière pendant cette guerre?
Le général Lee?
Le général Lee, oui, dans
Ouais.
le manière de combattre le Nord.
Oui, alors ça va évoluer avec le temps, mais disons que la stratégie qui va être élaborée au sud, ça va être ce qu'on va appeler la défense offensive. C'est-à-dire que le Sud est globalement sur la défensive du fait de ses moyens inférieurs, mais l'idée est de porter des coups au Nord le plus souvent et le plus rapidement possible pour essayer justement de dissocier la cohésion politique du Nord. Donc c'est une stratégie qui lui sera d'ailleurs reprochée. Il faut bien voir que Lee n'est pas le général en chef des armées confédérées. C'est-à-dire que c'est pas lui vraiment qui décide. Il propose au président Jefferson Davis, mais il n'a pas la main sur la haute stratégie sudiste. Donc, il n'est responsable finalement que de l'influence qu'on lui prête et du contrôle de l'armée de Virginie du Nord, qui est la principale armée et qu'il commande directement.
Qu'est-ce qu'il devient après la guerre? Est-ce qu'il est jugé pour trahison ou est-ce qu'on le laisse
Non.
tranquille?
Non, aucun sudiste ne sera jugé. Même le président de la Confédération, Jefferson Davis, fait 2 ans de forteresse au Fort Monroe avant d'être libéré, parce qu'aucun jury constitué au Sud ne l'aurait condamné de toute façon. Et dans cette logique de réconciliation, en fait, on exige un serment d'allégeance contre lequel les anciens sudistes peuvent retrouver leur citoyenneté. Alors, pour les généraux, pour les hauts responsables, ça met un peu plus de temps. Mais ils finiront eux-mêmes par être pardonnés. Excusez-moi. Alors, dans le cas du général Lee, c'est un peu spécial parce qu'il va envoyer son serment d'allégeance, mais il va se perdre. Alors, de manière volontaire ou involontaire, on ne sait pas, mais il va se perdre dans les archives et on ne le retrouvera qu'en 1975, de manière un peu par hasard. Et donc, ça donnera lieu à une cérémonie de réhabilitation de la part du président Gerald Ford, pour réintégrer officiellement Lee dans toute sa citoyenneté. Donc, il y a cette problématique de la citoyenneté et de la prestation de serment, mais il n'y a pas, encore une fois, de condamnation politique à l'issue du conflit.
Et si on s'intéresse maintenant au général Grant, donc lui est du côté du Nord, quelle est sa vision stratégique de la guerre justement et comment est-ce qu'il conçoit la guerre qu'il va mener contre le Sud?
Alors, au début, Grant, c'est un capitaine démissionnaire de l'armée. Il a eu des problèmes, en particulier son éloignement de sa famille a fait qu'il a commencé à boire beaucoup trop en garnison dans l'Oregon. Il a fini par être plus ou moins chassé de l'armée, et puis il a vécu une vie très difficile, voire presque indigente au cours des années d'avant-guerre. Et il rempile en 1861 en se disant, bon, bah, j'étais capitaine. je peux peut-être rendre service dans les armées de volontaires. Et donc, il va grimper les échelons petit à petit à ce moment-là. Et il a une vision de la guerre au début qui est finalement celle qu'on partage beaucoup de nordistes. C'est que c'est une rébellion qui va s'éteindre très vite. Il suffira d'une bataille dans le pire des cas pour mater les sudistes. Et ça n'est que petit à petit qu'il s'aperçoit que la guerre est véritablement, on va demander des années d'efforts et une mobilisation très très lourde de la part du pays pour arriver à ses fins. Et à telle enseigne qu'en 1864, il est le premier à proposer véritablement un plan d'ensemble cohérent d'articulation des différentes armées, des différents théâtres pour véritablement battre militairement le Sud. Donc il y a cette progression de sa perception de la guerre qui est très intéressante et qui aboutit donc à cette espèce de rupture stratégique. C'est peut-être un grand mot, mais pour la première fois, Grant conçoit ce qu'il appelle lui-même le grand plan en 1864 pour articuler les forces de l'Union et remporter une victoire militaire totale.
Alors, il a également été président des États-Unis. Il a fait deux mandats, de 1869 à 1877. Quels ont été les points de son mandat? Est-ce que justement la réconciliation a été un enjeu majeur?
Alors, oui, absolument. Et puis, on a beaucoup décrié d'abord les deux mandats de Grant parce qu'il y a une très très forte corruption sous son mandat. Alors, dont on ne le rend pas personnellement responsable. Il y a rien qui l'incrimine directement. Il y a beaucoup de ses proches qui vont être pris dans des affaires de corruption lourde. S'ajoute à ça une crise économique qui fait qu'il va souffrir d'une image catastrophique pendant très longtemps. Et l'historiographie moderne a redécouvert le fait qu'il avait été particulièrement engagé, non seulement dans la réconciliation nationale, mais aussi dans la défense des Noirs. Par exemple, c'est lui qui prend des mesures énergiques pour combattre le Ku Klux Klan. Il va prendre un certain nombre de mesures également dans l'espoir d'apaiser les tensions avec les tribus indiennes. Enfin, on lui prête beaucoup de volontarisme à ce niveau-là. Donc, c'est un président qui a à la fois d'excellentes intentions, mais une difficulté à les mettre en œuvre, du fait d'une part de son entourage et puis peut-être de son propre caractère qui fait que, en bon militaire, il a l'habitude d'être obéi et peu l'habitude des compromis politiques avec son propre parti républicain, avec ses adversaires. Donc, ce qui fait que ces deux présidences vont être un petit peu gâchées à cause de ça. Mais à titre personnel, il y a un véritable volontarisme dans ces deux mandats.
Vous évoquez le Parti républicain, c'est un des éléments politiques, cette fois-ci, de cette guerre. C'est que, alors ça a été créé évidemment avant le déclenchement de la guerre, mais il y a une sorte de fixation de la vie politique américaine autour de ce qui est donné aujourd'hui les républicains et des partis démocrates.
La logique est totalement inversée par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, le Parti démocrate,
C'est le parti esclavagiste, enfin qui soutient l'esclavagisme.
Ah voilà, absolument. C'est le Parti populaire à la base, parce que c'est le parti qui est issu de l'ère jacksonienne, qui est un parti populaire, mais qui est un parti populaire blanc et qui défend effectivement l'esclavage, que ce soit au nord ou au sud, alors de façon différente. Évidemment, le sud de manière intransigeante et le nord de manière plus détachée, mais c'est le parti qui en tout cas ne combat pas pour l'abolition de l'esclavage, ça c'est certain. Et le Parti républicain est à cette époque-là un très jeune parti, qui a pris la place du parti l'ancien parti conservateur qu'on appelait le parti Whig, et qui finalement, en quelques années, sur une plateforme abolitionniste plus ou moins affirmée, suivant les époques, finit par prendre la tête du pays par l'élection d'Abraham Lincoln, mais uniquement au Nord. Il n'est représenté uniquement au Nord. Et ce qui explique l'élection d'Abraham Lincoln en 1860, c'est justement que les démocrates sont divisés entre démocrates du Nord et du Sud, alors que les républicains ne sont représentés qu'au Nord, mais démographiquement, le Nord est devenu tellement puissant que ça suffit pour faire élire un républicain.
Effectivement, aujourd'hui c'est l'inverse. Enfin, le Sud vote essentiellement républicain et le Nord, notamment la région de New York, vote démocrate, mais ce n'est pas le cas dans les années 1860. Il y a une inversion qui s'est faite d'ailleurs dans les années 1960-1970, un siècle après.
Ou même avant, c'est l'ère Roosevelt qui renverse un petit peu les perspectives, où le Parti démocrate devient finalement le parti, on va dire, de la gauche, plutôt la gauche libérale américaine. Ce basculement se fait, ouais, à peu près, enfin au milieu du XXe siècle, le Parti républicain devenant celui des conservateurs. Et donc effectivement, oui, c'est dans l'histoire politique américaine, c'est un renversement assez total de la carte électorale. Oui.
Alors, on a évoqué la question de l'esclavage et du rôle que ça joue dans la guerre. Est-ce que dans la communication politique, cela a été utilisé? Je pense notamment aux partis du Sud, où se trouvent donc les populations noires qui sont l'objet, ou un des objets de cette guerre. Comment est-ce que réagissent les Noirs américains? Est-ce qu'ils soutiennent les gens du Nord? Est-ce qu'on craint une sorte de cinquième colonne, une révolte également des Noirs américains pour favoriser leur émancipation?
Avant la guerre de sécession, c'est la grande crainte du Sud, c'est le soulèvement des esclaves. C'est une peur pathologique quelque part qui s'appuie sur un certain nombre de souvenirs comme le massacre des Européens à Saint-Domingue au début du siècle ou la révolte de Nat Turner en Virginie en 1831 qui fait plusieurs dizaines de victimes. Et donc le Sud a une peur panique du soulèvement des esclaves. En réalité, c'est une peur qui est finalement infondée parce que les esclaves ne se soulèvent qu'assez rarement. Il y a des révoltes d'esclaves ponctuel, mais c'est finalement quelque chose d'assez limité. En 1859, il y a le fameux raid de John Brown à Harper's Ferry qui essaie justement de déclencher ce soulèvement. Et finalement, j'allais dire, c'est une sorte de pétard mouillé parce que ça n'a quasiment aucune répercussion, si ce n'est que lui va finir pendu avec une partie de ses partisans. Mais c'est vraiment une crainte très profonde au Sud. En réalité, ce qui va se passer pendant la guerre, c'est pas que les esclaves vont se soulever, c'est qu'ils vont s'enfuir tout simplement. Dès que l'occasion se présente, les plantations se vident. Par centaines de milliers, les esclaves essayent de gagner les lignes du Nord et ils vont se porter massivement volontaires quand ça leur sera autorisé, parce que ça c'est assez tardif. Le Nord n'accepte pas de soldats noirs avant officiellement 1863, un tout petit peu avant, mais bon, globalement c'est un débat important et ça n'est officialisé que dans le courant de l'année 1863. Et là, ils vont se porter volontaires en nombre, jusqu'à 180 000 noirs, pour en grande majorité d'anciens esclaves qui vont servir les armes à la main dans les armées de l'Union.
Et vous dites
donc,
que...
pour résumer, pas de révolte interne finalement. Il n'y a pas de grand soulèvement d'esclaves internes, mais à l'approche des troupes du Nord, les populations noires sont véritablement proactives dans leur propre logique d'émancipation, puisqu'elles fuient en masse et encore une fois, elles reviennent les armes à la main dans les armées nordistes.
Oui, évidemment, ça joue et contribue à la victoire du Nord, savoir cette population massive.
Ça a beaucoup aidé le Nord, bon, qui a un réservoir humain qui est quand même important, mais même avec ce réservoir humain qui a des difficultés à recruter au milieu de la guerre, parce que la guerre est tellement difficile, et tellement de victimes, et donc le fait que d'enrôler par dizaines de milliers et puis même centaines de milliers ces soldats noirs va être un atout extrêmement précieux. Alors c'est des troupes qui vont combattre parfois en première ligne et parfois même très durement, et puis souvent qu'on utilise à garder les forts, à garder les lignes de communication à mesure que les armées pénètrent de plus en plus profondément dans le sud.
Est-ce que la question de l'esclavage a été aussi un enjeu de communication, notamment à l'étranger, par exemple pour apporter un soutien au Nord?
Ah oui, bah encore une fois clairement, il y a même si les gouvernements européens, en particulier la France et l'Angleterre, seraient plutôt tentés politiquement d'être solidaires du Sud, les opinions publiques sont vent debout pour la plupart, en tout cas à part les plus conservatrices sans doute, mais sont vent debout contre l'esclavage. Donc il y a une véritable solidarité et puis pour la cause de l'Union finalement, et qui se double de la cause. Alors pas tout de suite de l'abolition, mais en tout cas de se battre contre les esclavagistes et des gens comme par exemple le comte de Paris de la branche des Orléans qui va passer un moment sur le terrain et qui va participer à la campagne de la péninsule avec McClellan en 1862. Il y a beaucoup de gens il y a Marx qui a écrit beaucoup aussi sur la guerre. Il y a véritablement un engouement d'une partie de l'opinion européenne pour la cause du Nord finalement, face à l'aristocratie esclavagiste du Sud.
Quelle est la présence aujourd'hui dans l'histoire américaine de la mémoire de cette guerre? Vous avez dit tout à l'heure que le président Johnson avait rendu hommage au général Lee. Aujourd'hui, on voit des statues de lits qui sont au contraire renversées. Est-ce que c'est l'objet de controverses dans l'histoire américaine ou est-ce qu'il y a un consensus sur la lecture que l'on fait de cette guerre et sur le rôle qu'elle a aussi eu dans la création moderne des États-Unis?
Alors c'est assez très compliqué ça aussi. Il y a eu deux lectures assez opposées. Il y a eu le roman, j'ai dit entre guillemets le roman sudiste, ce qu'on appelle la Lost Cause, qui magnifiait un petit peu la cause du Sud en essayant de minimiser, voire d'éliminer l'esclavage dans les causes de la guerre, qui a longtemps eu pignon sur rue. Hein, encore une fois, c'est autant n'importe le vent. Cette vision un peu romantique du Sud écrasé sous le nombre. Il y a eu aussi un roman unioniste finalement qui a consisté à présenter la guerre comme une guerre d'abolition, comme une grande croisade pour libérer les Noirs, alors qu'en réalité au début c'était pas le cas. Ce qu'on voulait faire avant tout c'était préserver l'Union. Et puis ces deux grands romans, j'allais dire ces deux grands récits plutôt, ça va être plus juste, se sont rejoints dans une espèce de réconciliation nationale. Où tout le monde finalement trouvait son compte. Le Nord avait la bonne conscience d'avoir fait la bonne guerre pour la bonne cause, et le Sud, bah, de s'être finalement bien battu et de ne pas avoir démérité face à plus fort que lui. Sauf que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est l'irruption d'un troisième récit qui avait été un petit peu oublié, ou en tout cas passé sous silence, c'est le récit des Noirs américains. Et en particulier de leur rôle, non pas en tant que sujet de la guerre, mais en tant qu'acteur de la guerre à part entière et de l'émancipation à part entière. Et ça donne lieu aujourd'hui, effectivement, à ce que moi j'hésite peut-être même pas à appeler un troisième roman, c'est-à-dire qui ne voit la guerre qu'au travers du coup de l'émancipation, qui est un aspect très important, mais encore une fois qui ne peut pas englober l'ensemble des problématiques. Et qui donne lieu à des questionnements autour de toute la symbolique confédérée, qui uniformément assimilé à l'extrême droite, alors que c'est vrai que les symboles ont été très largement récupérés, en particulier à la période de la ségrégation, mais c'est quand même plus compliqué que ça. C'est un peu la posture de réconciliation qui est en train d'être battue en brèche aujourd'hui, dans une sorte de rhétorique consistant à dire que tout le monde était coupable, le Nord et le Sud, de la même façon, pour opprimer les Noirs, et que on veut même. Il y a une controverse qui date de ce matin, je crois, où en Californie, on parle de rebaptiser certaines écoles qui s'appellent Abraham Lincoln, parce que Abraham Lincoln soit n'a pas joué, comment dire, n'a pas joué exactement le rôle proactif contre l'esclavage qu'il aurait dû jouer dès l'origine, soit pour certaines décisions qu'il a prises contre les Indiens. Enfin voilà, on est sur des problématiques qui sont très très communautaires et qui ont leur raison d'être d'une part, mais qui sont en même temps sans doute, en tout cas de mon point de vue, assez excessives, voire contre-productives.
D'autant que pour complexifier un petit peu les choses, au XXe siècle, au moment de la ségrégation, les États du Sud sont des bastions démocrates. C'est un peu Lyndon Johnson qui a trahi son camp en quelque sorte en soutenant la lutte contre la ségrégation, alors même qu'il venait du Texas où cette politique était pratiquée.
Oui, parce que bon, l'origine. Bon, moi, je suis pas un spécialiste de la politique des États-Unis, donc je veux pas déborder de mes compétences non plus. Mais encore une fois, on est aux racines du Parti démocrate, qui est un parti populaire, mais est un parti populaire blanc et qui a mis très longtemps à renverser cette perspective par rapport aux populations noires, qui elles-mêmes, pendant des décennies, étaient redevables des républicains de leur propre émancipation. Et donc, on est sur cette logique-là qui a évolué progressivement au cours du XXe siècle. Encore une fois, c'est pas mon domaine de compétence, donc je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais on est véritablement sur quelque chose qui est complexe. Oui, c'est une relation politique et un renversement politique aux États-Unis qui est très intéressant et très complexe.
Alors pour revenir à l'histoire militaire et à l'histoire de cette histoire militaire, vous avez dit qu'il y a eu beaucoup d'écrits, que ça a intéressé les Européens. Est-ce que la guerre de sécession américaine a été étudiée comme une guerre moderne et comme quelque chose qui aurait pu inspirer les puissances européennes dans la stratégie ou dans la tactique militaire?
Pas véritablement. Alors peut-être si on excepte le domaine naval, où on a l'apparition des premiers navires cuirassés, bardés de fer, et les Européens s'y intéressent déjà, et là ils ont une expérimentation sous les yeux qui va faire avancer un certain nombre de choses, en particulier l'apparition des tourelles mobiles sur les navires. Donc là, oui, il y a un rôle véritablement joué par la guerre. Au plan des opérations terrestres, c'est un conflit qui est souvent considéré comme trop singulier, non reproductible, et puis il y a une forme aussi de condescendance des Européens par rapport aux États-Unis. On se passionne un peu pour ce conflit, mais qui est un peu un conflit de cow-boy, un conflit lointain, un conflit entre armées de non professionnels. Donc, on n'en tire pas de leçons véritablement au sens strict du terme. On observe éventuellement ce qui s'est passé, mais en disant oui, de toute façon, nous, chez nous, ça fonctionnera pas de la même façon. J'ai en tête, par exemple, un maréchal anglais qui explique que ce qui a manqué aux armées de l'Union, c'est un corps d'armée professionnel, discipliné, à l'européenne, justement, qui aurait pu porter l'estocade au cours d'une bataille ou une autre. Et donc voilà, on est un peu sur cette perspective-là. Il n'y a pas de modèle de la guerre de sécession. On écrit beaucoup, mais j'allais dire, même aux États-Unis, on n'en tire pas vraiment de bilan. Les chefs de l'armée américaine d'après-guerre, c'est-à-dire respectivement Grant, Sherman puis Sheridan, sont pas du tout des théoriciens. Ils sont ensuite préoccupés par les guerres contre les Indiens avant tout. Et donc, même eux ne tirent pas de grands principes de la façon dont ils ont mené ce conflit.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent Bernard, d'avoir évoqué pour nous cette guerre de sécession dont je rappelle le titre de votre ouvrage qui est paru chez Passé Composé, La guerre de sécession, la grande guerre américaine, pour permettre à nos auditeurs qui voudraient l'étudier plus en détail, eh bien, de lire votre ouvrage. Ils auront ainsi beaucoup plus de choses et d'éléments que ce que nous en avons pu en dire au cours de ces émissions pour compléter le propos et pour aller plus au fond. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine.